Bien, bonjour tout le monde. Alors, je suis désolée, je suis un peu enrhumée, donc j'ai une voix, j'espère, audible, mais sans doute un peu bouchée. Voilà, toutes mes excuses. Donc, Alexandra m'a déjà présenté, donc je ne vais pas me représenter, mais juste vous donner deux ressources que je mets dans le chat. Déjà, le bilan que j'avais fait du réseau d'Eléa peut-être pourra vous intéresser parce que c'était justement sur. La collaboration et comment faciliter cette collaboration et qu'est-ce qu'on pouvait appeler collaboration, quels étaient les différents types de collaboration au sein du réseau, donc en 2016-2017. Voilà, j'avais essayé de faire un peu une cartographie et des choses et de ce qui se passait et de faire des préconisations en toute humilité de ce qu'on pourrait faire pour encore favoriser cette collaboration. Et la deuxième ressource que je vous mets, c'est un article sur les négociations dans les recherches collaboratives, parce que ça, c'est vraiment mon truc. Donc, je m'intéresse aux négociations dans les projets de recherche collaborative. Et bon, voilà, je ne vais pas détailler plus, mais il y a deux personnes qui en ont parlé de vraiment ce que j'appellerais une négociation. Nicolas Hervic, quand vous avez parlé des les évaluations que le chercheur n'avait pas envie d'implémenter dans le projet, et puis les enseignants, oui, donc vous avez dû négocier là-dessus et le co-construire, donc c'est un exemple typique de négociation, un désaccord qui est où les personnes collaborent pour pouvoir le résoudre. Et Cécile Bergère, quand vous avez parlé de débats parfois houleux et du temps que ça peut prendre de se mettre d'accord sur des concepts et sur des notions, et en fait, bah, c'est génial, c'est un super bon signe de projet. Qui fonctionne parce qu'en fait, c'est grâce à ça que les personnes vont pouvoir se comprendre, créer du vocabulaire commun, de la culture commune et un sentiment de communauté, même si ça passe par des moments inconfortables, désagréables. Mais quand ça négocie, et donc je rappelle, la négociation, ça part d'un désaccord. Donc c'est quand même super parce que ce qu'on veut éviter, c'est soit un désaccord qui n'est pas exprimé, et là, les personnes peuvent se désengager. Sans le dire, sans qu'on s'en rende compte, ou soit un désaccord qui part soit en dispute, où donc là les personnes ne cherchent plus à le résoudre, mais simplement à affirmer leur point de vue, ou en simple discussion. On n'est pas d'accord, mais on est d'accord pour ne pas être d'accord. Ben non, si on veut co-construire et avoir un objectif commun, même si on a des contraintes très différentes, on doit passer par la négociation. Bref, donc voilà, ça c'était juste ma présentation. Mais je vais être plus synthétique sur ce que je voulais vous dire en conclusion. Donc déjà, vraiment, je vous remercie. C'était extrêmement intéressant de vous écouter. Et en fait, j'ai retenu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points que j'appellerais autour de la variation, de la variété. Donc déjà, la variété des méthodologies et des méthodes d'animation. Donc ça, c'est le point où je suis un peu frustrée. J'ai envie d'en savoir plus, de regarder exactement ce qui se passe dans les projets, qui porte l'animation, est-ce que c'est un rôle qui est distribué, est-ce que c'est toujours les mêmes personnes qui portent la parole des différents groupes. La proximité des lieux aussi, ça a été un peu abordé, à quel point ça facilite tout le long la collaboration, le fait de pouvoir parler à l'oral, de ne pas passer par l'écrit, donc ça veut dire peut-être que les personnes sont proches géographiquement ou alors ont des emplois du temps très compatibles, enfin, voilà, des choses très terre à terre, mais que je trouve intéressante. Les lieux des réunions, est-ce que c'est toujours dans un endroit plutôt dédié ou est-ce que ça tourne? Est-ce que parfois ça va aussi dans les collèges, dans les écoles? Est-ce que c'est un lieu qui est plutôt dédié à la recherche? Les différentes échelles des itérations, donc dans les deux projets qui ont été présentés, il y avait des itérations. Donc soit des petits groupes qui font des itérations ensemble pour construire une ressource, ensuite qui le passent au grand groupe et ensuite ça va dans la classe. Et le deuxième modèle que j'ai compris, hein, peut-être que j'ai mal identifié les choses, mais c'est l'analyse que j'en fais. Donc plutôt une boucle en groupe, puis en classe, et ensuite pour aller dans une autre classe. Voilà, deux modèles très différents, mais d'itération à chaque fois, donc des boucles d'amélioration où on va tester la ressource pour l'améliorer. Troisième point de variété sur les différents acteurs qui peuvent être engagés dans une co-conception, donc des enseignants, des chercheurs, évidemment, mais différents enseignants. Donc on a vu différentes disciplines, différents degrés, différentes classes, différents lieux, différentes académies, différents chercheurs aussi. dans les inspé, hors inspé, etc. Des designers, des élèves, et puis j'imagine aussi peut-être des informaticiens, des ingénieurs pédagogiques, d'autres personnels support qui collaborent avec vous. J'ai trouvé très intéressant la variété de la manière d'inclure les élèves ou pas, donc dans des entretiens, dans des observations, peut-être dans des phases de conception en tant qu'expert élève, je ne sais pas. Variété du point de départ de la problématisation, donc je ne vais pas développer plus parce qu'on en a parlé, mais est-ce qu'on parle plutôt d'une problématique de terrain, d'une problématique de recherche ou les deux en même temps, deux personnes qui identifient ensemble, est-ce que c'est discuté en groupe, est-ce que c'est une personne qui l'impose au groupe entre guillemets, voilà, très intéressant cette variété. La variété du degré de collaboration, donc quelqu'un a mentionné le mot de collectif, par exemple, c'était Monsieur Nicolas Hervé. Donc je trouve ça quand même super d'en arriver à se considérer comme un collectif. Et on voit émerger cette intelligence collaborative dans les deux Léas qui ont été mentionnées. Donc la variété de collaboration, je la situerais soit dans la, enfin, à différentes échelles, donc dès la conception, l'expérimentation, l'observation. L'analyse, donc que ce soit dans la grille d'analyse ou l'analyse elle-même, la rédaction des productions, donc scientifiques par exemple, mais aussi des séquences pédagogiques. Et puis évidemment la collaboration donc dans la négociation, mais ça c'est un processus vraiment transversal, donc je ne vais pas aller plus loin, je vous l'ai dit un petit peu en guise d'introduction. Et enfin, donc, dans les productions, donc là, j'en ai listé plusieurs, donc les savoirs, évidemment, les compétences professionnelles pour les uns et les autres, les ressources pédagogiques, donc que ce soit des séquences, des fiches, donc quelle sera la mise à l'échelle ensuite? Est-ce que c'est la classe? Est-ce que c'est l'établissement? Est-ce que c'est l'académie? Est-ce que c'est le Léa, le réseau des Léas? Vous voyez la mise à l'échelle qu'on peut penser. Mais aussi, j'ai noté donc les articles. La réflexivité, ça j'ai trouvé que c'était très intéressant. La réflexivité pour les enseignants, pour les chercheurs. Donc, par exemple, sur la question de l'évaluation, je sais pas, les méthodes de travail, etc. Je suis sûre que chaque personne retire des choses là-dessus, mais aussi sur les élèves. J'ai noté deux exemples, les stéréotypes sur le monde agricole et les questions vives. Donc voilà, deux exemples de réflexivité auxquels je pense les élèves et sans doute tout l'équipe pédagogique a été amenée à réfléchir. Et la dernière question, donc comment est-ce qu'on dissémine ces productions? Là, on vient d'en parler. Et pour conclure ma conclusion, je dirais qu'en tout cas, ces deux projets qu'on a vus étaient vraiment exactement l'archétype d'une recherche orientée par la conception, design-based research. Donc, avec trois grands axes, on s'attache à produire des choses en fonction de besoins spécifiques. On ne part pas d'un cadre théorique qu'on va appliquer à une classe, à un chercheur qui pense quelque chose et qui est appliqué par un enseignant. Donc là, je caricature, excusez-moi. Mais vraiment, on part d'un besoin spécifique et on va produire quelque chose spécifiquement pour le besoin et pour que ça serve à cet enseignant, à ses élèves, à cet objectif d'apprentissage. Deuxième grand axe de la recherche orientée par la conception, une méthodologie itérative, donc là, exactement ça dans les deux projets. Et troisième chose, une volonté de symétrie des savoirs et d'apport réciproque. Frédéric l'a dit au tout début, lui, il était expert terrain. Il est pas plus ou moins expert qu'un chercheur, chacun est expert dans son domaine. Et chacun apporte à l'autre et reçoit de l'autre et de l'intelligence collective du projet. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique, j'espère que je n'ai pas parlé trop vite. Et en tout cas, je vous remercie encore.